La grande équation.
Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Aujourd'hui, le retour du voyage fantastique. Les auditeurs de plus de 40 ans se souviendront certainement du film Le Voyage fantastique qui décrivait les aventures d'une équipe de scientifiques miniaturisés à bord d'un sous-marin plus petit qu'une cellule et insérés dans le corps d'un chercheur de renom afin d'éliminer un caillot de sang logé dans son cerveau. Si les lois de la nature nous interdisent une telle épopée, c'est sûr, le développement des dernières années dans ce qu'on pourrait appeler la nanomédecine nous promettent des émotions au moins aussi fortes. Et c'est à certains de ces développements que nous nous intéresserons aujourd'hui à l'émission, dans le cadre d'une série sur les nanosciences et les nanotechnologies et leur impact sur notre vie de tous les jours. Si la fabrication d'écrans flexibles à base de nanotubes de carbone peut nous étonner ou même nous émerveiller, l'impact le plus important sur nos vies de cette nouvelle branche du savoir risque de provenir en fait du côté médical, avec le développement de nouveaux outils de diagnostic qui permettront d'en savoir de plus en plus sur chacun de nous, pour le meilleur et pour le pire. Afin de discuter de certaines de ces avancées, je reçois cette semaine le physicien Théodore Verrès. Théodore Verrès est chercheur senior au Conseil national de recherche à Boucherville. Il est chef de groupe en nanomatériaux fonctionnels et il est également professeur adjoint à l'INRS Énergie Matériaux et en génie biomédical à l'Université de McGill. Théodore Verrès travaille sur plusieurs projets dans le domaine des nanomatériaux, mais également dans ce qu'on appelle la nanofluidique, dont on parlera tout à l'heure. Allant du fondamental à l'appliqué, il couvre la gamme complète du développement de nouveaux produits, ce qui lui donne un point de vue privilégié sur ce domaine. Théodore Verrès, bienvenue à La Grande Équation. Comme je l'ai mentionné dans mon introduction, la nanoscience et la nanotechnologie sont en train de bouleverser la médecine. Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu d'exemples de ce type d'approches nouvelles qui sont en train d'être développées présentement?
Je dirais que le développement des nanotechnologies et de la nanoscience a un impact sur les applications pour la santé, ce qu'on appelle communément la nanomédecine ces dernières années. Et je dirais que les impacts sont à la fois dans les diagnostics rapides, qui a une incidence directe sur la santé. On espère dans les prochaines années sur la santé des gens autour de nous. Il y a des impacts aussi sur l'économie, en développant des méthodes plus sûres, autant pour la sécurité alimentaire ou pour la sécurité d'environnement, mais aussi des développements qui sont issus directement des développements technologiques qui peuvent avoir des impacts sociaux extrêmement importants. Et je parle ici de ce que l'utilisation des nanodispositifs, notamment dans la génomique et dans le séquençage du génome, pourrait nous apporter comme information et comme impact sur la vie des jours le jour.
Donc, regardons un peu ces trois différents aspects séparément, peut-être. On peut commencer par le dernier, qui est la question de relation entre la nanoscience ou les nanosciences et la génomique. En quoi est-ce que tout ça s'est relié?
C'est relié surtout sur ce que le développement technologique et les nouvelles technologies, par exemple, qui sont utilisées pour le séquençage du génome humain, du génome humain en particulier, peut nous apporter. Ce que le développement, par exemple, des technologies de séquençage qui utilisent des substrats ou des dispositifs nanofabriqués comme des nanotrous, par exemple, ont permis ces 5 à 10 dernières années d'augmenter de manière exponentielle dans la vitesse avec laquelle on peut déchiffrer les codes génétiques. On a réduit par le fait même le coût du séquençage du génome humain et le temps pour le faire.
Donc, parce que le premier génome humain séquencé dans les années 90, ça a été un travail titanesque impliquant des milliers et des milliers de chercheurs et plusieurs années de travail.
Et des milliards de dollars d'investissement autant dans le secteur privé que dans l'approche parallèle universitaire qui a été mise. Cela a donné que des années de travail, une importante base de données qui devait être être déchiffrés, et c'est d'ailleurs encore aujourd'hui un défi extrêmement important. Mais le progrès technologique, et notamment certaines sont issues de l'utilisation des structures nanofabriquées, ont permis d'accélérer énormément à une vitesse qui est au-delà de la loi de Moore, qui est connue en microélectronique, en nanoélectronique, pour pouvoir séquencer à l'intérieur d'une journée, par exemple, à peu près à 1 000 $, un génome.
On parle à ce moment-là d'une accélération de plus d'un facteur d'un million ici.
Tout à fait. Bon, même d'un milliard ou plus.
Bon. Cette nouvelle technologie-là va donc nous donner la capacité de séquencer le génome de n'importe qui se présente à l'hôpital ou qui se présente chez son médecin.
Tout à fait. On n'est pas aujourd'hui en temps réel, mais si vous vous rappelez, par exemple, un des films de science-fiction des années 90-97, par exemple, Gattaca, là, on avait un séquençage en temps réel d'un bébé à la naissance et dans quelques secondes, on pouvait déterminer l'âge de sa mort, les maladies génétiques qu'il avait et donc on n'est pas loin de ça. Je citerai même qu'il y a 2 mois aux États-Unis, un test génétique basé sur le séquençage est disponible à la naissance et a été offert. Par contre, pour revenir à votre question, ça implique énormément des aspects des sociétés. Ça veut dire, devrait-on avoir accès à toute cette information? À quel moment? Pour quelle fin? Si d'un côté, ça serait extrêmement intéressant de savoir quelles sont les anomalies génétiques et pouvoir intervenir, savoir faire des traitements, c'est bénéfique. Mais en même temps, pouvoir stigmatiser une personne parce que sa génétique lui permettra de vivre ou de s'épanouir comme on le fait aujourd'hui, ça pose des problèmes extrêmement importants, autant du point de vue personnel que du point de vue organisationnel au niveau de la société, les assurances et ainsi de suite. Donc, on n'est pas préparé aujourd'hui dans la société, ici au Québec, au Canada, mais à travers le monde, à répondre encore à cette question-là. Et donc, le principe des précautions, si vous voulez, ça nous force encore à réfléchir de quelle manière ces technologies-là seront disponibles. Mais du point de vue technologique, la capacité, elle est là, elle n'est pas dans 5 minutes, mais elle est à une journée et à un coût qui est accessible. Mais on n'a pas actuellement la manière de faire un traitement personnalisé. Donc, la question d'être diagnostiqué pour quelque chose qu'en principe, on ne peut pas traiter, c'est une question extrêmement épineuse et ouverte actuellement.
On reviendra un petit peu là-dessus quand on a représenté les 2 autres aspects, parce que, si on veut, toutes ces questions-là se rencontrent au point de vue social. On a mentionné ici la génomique. Vous aviez mentionné aussi la question de diagnostic rapide. Ici, en quoi les nanosciences peuvent-elles aider au diagnostic?
Moi, ce que j'appelle nanoscience, et moi, je dirais plutôt pour le diagnostic, les nanotechnologies en soi, ça veut dire utiliser des propriétés fondamentales qui sont issues de la taille ou du comportement des assemblées qui sont dans quelques nanomètres, dizaines de nanomètres. Ça nous permet d'augmenter la sensibilité, par exemple, des détections. Si je prendrais un exemple, la détection d'une molécule marqueur du cancer.
Oui.
D'accord? C'est extrêmement important. Certaines maladies, ils ont une empreinte qui est moléculaire, ça veut dire l'émission des protéines, des marqueurs qui sont dans le système, dans le sang ou dans les tissus, et leur détection dans très faible quantité représente une modalité de diagnostiquer la présence d'une certaine pathologie. Leur présence, par contre, et leur détection dans de très faibles quantités, ça peut être un diagnostic précoce qui peut sauver des vies. Comment arriver à ces détections précoces? Ça veut dire augmenter la sensibilité. Et ce que la nanotechnologie et certaines des approches qui sont issues cette dernière décennie, c'est en fabriquant des substrats, des dispositifs ou ce qu'on appelle des nanoparticules, ça nous permet à la fois de concentrer ces genres de molécules ou ça nous permet d'augmenter la sensibilité par divers types de procédés, que ce soit la spectroscopie Raman exaltée en surface, que ce soit la nanophotonique, que ce soit la plasmonique, qui exploitent tous les propriétés des concentrations des ondes, par exemple électromagnétiques, afin d'augmenter des sensibilités. Comment cela ça se traduit? Ça nous permet de fabriquer à faible coût et ça permet d'augmenter la sensibilité de ces dispositifs. Donc ça se traduit par des dispositifs de diagnostic qui sont peu chers, disponibles pour tout le monde, déployés au chevet du patient dans le cadre des diagnostics cliniques ou être déployés, par exemple, si on veut faire un diagnostic dans l'environnement des polluants ou d'autres molécules.
Et l'avantage, vous dites, c'est plus petit, ça permet d'être transporté facilement, mais ça exige aussi moins d'entrants, c'est-à-dire une goutte de sang ou un test relativement facile va déjà livrer les quantités suffisantes pour être utilisées par ce genre de laboratoire sur puce.
Exactement, parce que je dirais, ce que la nanotechnologie a apporté, cette capacité de sensibilité extrême à un faible coût est disponible actuellement, mais pour exploiter ce genre de surface ou propriété à l'échelle nanométrique, il faut qu'on interface, il faut qu'on fasse un pont entre ces surfaces qui sont minuscules, très difficiles à manipuler, et les interfacer avec le monde extérieur. Ça veut dire prendre un échantillon, comme vous avez mentionné, une goutte de sang ou une quantité d'eau qui est polluée. Et pour cela, dans le domaine de diagnostic moléculaire, diagnostic clinique ou environnemental, le pont, ça se fait avec des technologies émergentes qu'on appelle les technologies des laboratoires sur puce.
Et pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que c'est un laboratoire sur puce comme tel?
J'irais à faire une analogie pour les gens qui sont très familiers, par exemple, avec l'électronique de jour le jour dans tous nos appareils, donc même celles qui sont utilisées pour notre enregistrement. Dans les années 70 et 60, on avait les circuits imprimés. C'était une technologie qui a évolué dans toutes les technologies intégrées aujourd'hui. Moi, je dirais que le laboratoire sur puce exploite des technologies qu'on appelle des microfluidiques et des nanofluidiques. Ça veut dire la capacité de manipuler des volumes de liquide extrêmement petits en par des nanolitres ou des microlitres.
Et si c'est plus petit qu'une goutte?
Tout à fait, tout à fait. Une goutte, c'est dans les domaines des dizaines de microlitres ou parfois des millilitres. Donc, on parle ici des volumes extrêmement petits qu'on peut manipuler de manière multiplexe et on peut manipuler ces gouttes-là pour les amener justement sous ces surfaces des senseurs. Je dirais que la microfluidique et les technologies de microfluidique représentent pour la biologie, pour le diagnostic rapide, ce que ça représentait le circuit imprimé pour l'électronique d'aujourd'hui.
Mais vous voulez dire qu'on va mettre une goutte de sang sur un circuit imprimé ou comment ça va fonctionner?
Non, un circuit microfluidique, c'est un système de canaux minuscules de quelques microns ou quelques nanomètres.
C'est des tuyaux, c'est vraiment
tuyaux,
de la plomberie, si on veut.
Moi, je rappelais ça la micro-nanoplomberie. Donc, imaginez-vous des systèmes de tuyaux, comme dans une maison, mais sur une plaquette, par exemple, qui est fait quelques centimètres carrés, qui permet de déposer justement une goutte de sang. Et à partir de ces gouttes de sang-là, on pourrait faire des multiples analyses. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple, ces gouttes de sang-là pourraient contenir une cellule cancéreuse.
Une seule.
Une seule. Et cette cellule cancéreuse-là, pour pouvoir faire un diagnostic, il faudra la séparer. Éventuellement, il faudra la éclater pour sortir son ADN et faire une identification génétique. Tout cela se passe actuellement dans les recherches qui sont faites à travers le monde, se font ici au Québec et au Canada et dans nos laboratoires aussi au Conseil national, en utilisant ces systèmes de microplomberie. La question qui se pose, c'est que la fabrication de ce genre de systèmes de microplomberie ou des laboratoires sur puce a été initialement faite sous des substrats en verre ou des substrats en silicium. Bien sûr, les technologies qui sont là sont issues de la microélectronique, donc la communauté...
On utilise à ce moment-là les mêmes outils qu'on utilise pour faire les puces qui sont utilisées dans vos ordinateurs ou dans votre, téléphone.
Exactement. Et comme je dis, les facteurs d'échelle ici, on parle des tuyaux avec des diamètres de quelques dizaines de microns jusqu'à submicroniques ou même dans l'échelle de quelques dizaines de nanomètres. Les technologies sont les mêmes, mais pour déployer ces genres de dispositifs, il va falloir pouvoir les fabriquer. Et pour pouvoir les fabriquer, il faut les fabriquer à faible coût. Et pour fabriquer ça à faible coût, c'est une question autant des technologies de fabrication et que des technologies, des matériaux dans lesquels on fabrique.
Et quand vous dites à faible coût, vous dites comparé aux approches traditionnelles où on a quand même besoin d'un immense laboratoire avec une vingtaine ou une trentaine de personnes, avec des dizaines de machines qui coûtent des centaines de milliers de dollars.
Exactement. Parce que si on veut parler du diagnostic qui est utile pour réduire les coûts du système de santé, pour assurer par exemple la sécurité de la chaîne alimentaire ou l'environnement, mais être capable de déployer ces genres de dispositifs dans un très grand nombre. Et pour cela, il faut que ces dispositifs-là, qui sont d'unique utilisation, ne coûtent pas cher. Et le problème qui se pose dans les substrats en verre ou les substrats en silicium, c'est 80 fois plus cher qu'un substrat en polymère, en plastique. Et donc, pour pouvoir déployer une test qui ne coûte pas trop cher, il va falloir à la fois utiliser des méthodes de fabrication qui sont rapides, qui sont peut-être industrielles, et des substrats qui ne coûtent pas cher. Et donc, c'est cette combine-là qui vont faire que les tests vont être disponibles.
Et ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Théodore Verrès, qui est chercheur senior au Conseil national de recherche du Canada à Boucherville et qui est un spécialiste des nanosciences et de leurs applications, entre autres en médecine. Pour faire les développements dont vous avez parlé, il faut quand même s'appuyer sur une connaissance vaste, pas seulement de la médecine, mais aussi des matériaux, des procédés de fabrication. Ça demande donc des gens qui ont une connaissance très polyvalente.
Certainement. Nous, on est à l'intersection des gens qui peuvent déployer ces genres de technologies dans le domaine de la santé ou de diagnostic rapide, mais on est des facilitateurs, si vous voulez. En s'appuyant sur des collaborations très fortes avec des groupes universitaires au Canada et plus particulièrement ici au Québec, qui nous permet de développer au niveau plus fondamental des concepts, nous on joue et on voudrait jouer le rôle de translation, si vous voulez, pour pouvoir vérifier, fabriquer et déployer ce genre de technologies pour les secteurs d'application dont on parle.
Mais vous développez vous-même la question de la nanolithographie, entre autres,
tout à fait,
pour la fabrication de cette nanoplomberie dont vous parliez.
Certainement. Et ça, c'est une, je dirais, une particularité de laboratoire que nous avons installé pour la première fois au Canada. C'est des technologies de nanolithographie par impression, si vous voulez. C'est, j'ose dire que, comparé à la technologie, si vous voulez, à l'impression de Gutenberg il y a 500 ans, mais cette fois-ci a été réinventée dans les années 2000 à l'Université Princeton, où, en utilisant, par exemple, une moule qui, on va presser sur un polymère, sur une plastique qui est chauffée, on va transmettre le patron de la moule à l'intérieur du polymère, et en refroidissant, on sépare. C'est une technologie qui, en principe, est simple, mais qui nous permet de répliquer des motifs de quelques nanomètres jusqu'à des dizaines de nanomètres.
Donc, quelques dizaines d'atomes seulement.
Exactement.
De large.
Donc là, je dirais que les lignes les plus fines qu'on a pu faire, même chez nous, c'est de la taille de 6 à 10 nanomètres. Mais ce qui est particulier avec cette technologie-là, c'est qu'en investissant une fois dans une moule qui peut coûter cher, on peut la répliquer par après par des milliers de fois. Donc, ça nous donne une productivité, d'où ma comparaison avec la technologie d'impression de Gutenberg.
Avant de parler des prix, puis peut-être de quand est-ce que ça va arriver, vous aviez mentionné aussi une troisième direction, c'est-à-dire là où ces technologies-là peuvent aussi servir, par exemple, à la sécurité alimentaire. Comment est-ce qu'on relie les nanomédecines et la sécurité alimentaire?
C'est de la même manière que dans le cas des diagnostics cliniques. En réalité, quand on fait un diagnostic clinique, et je reviendrai un peu là-dessus pour vous faire le parallèle, on parle de la détection des virus ou des bactéries, des pathogènes, que ce soit des activités dans le domaine des diagnostics des virus respiratoires, qui est justement en hiver actuellement. Mais c'est le même type de technologie que pour la détection des bactéries ou des contaminants biologiques dans la chaîne alimentaire ou la chaîne environnementale. Il s'agit d'une fois à prendre un échantillon et à isoler, par les mêmes techniques, par exemple, des microplomberies, des microfluidides, à isoler les cibles, les virus, les bactéries, ensuite à les éclater pour extraire de l'ADN, et par après isoler, identifier l'ADN par des techniques d'hybridation, ce qu'on appelle des puces à ADN. Tout ça sont des technologies tellement génériques, ce qui fait en sorte que les technologies qu'on développe pour le domaine des diagnostics médicaux peuvent, avec très petites modifications, s'appliquer pour la diagnostic dans la chaîne alimentaire. Il y a bien sûr des défis importants sur la nature des échantillons. Dans le cas d'une diagnostic clinique, on prend une prise de sang qui est 5 millilitres. Dans le cas, par exemple, d'une test alimentaire. D'une tranche de jambon, par exemple, si on prend une hamburger qui est contaminée à la listeria, et on a eu cet épisode-là au Canada, il faut, pour faire l'expérience, resuspendre tout ça dans une demi-litre de bouillon de culture. Donc, c'est un volume extrêmement grand. C'est comme aller chercher l'aiguille dans une boîte à foin. Et donc, mais encore, les nanotechnologies sont importantes dans le côté des détections.
Détection, parce que c'est rapide aussi. Comme on n'est pas obligé de multiplier, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un échantillon et pour être capable de le voir, il faut le mettre dans un bouillon de culture que vous mentionnez, attendre 3-4 jours que ça ait multiplié pour voir est-ce que ça existe ou non, parce qu'on ne peut pas le détecter. Un des gros avantages de la nanomédecine, c'est qu'avec une goutte, on va être capable de détecter tout de suite, sans avoir à attendre la multiplication des contaminants.
Exactement. Les standards actuels au Canada, donc si tu as approuvé par Santé Canada, les décisions sont prises exactement dans le processus dont vous faites mention, après 5 à 6 jours. Donc, on ne peut pas faire un rappel avant d'avoir une confirmation que, par exemple, un contaminant, que ce soit E. coli ou Listeria, sont vivants à l'intérieur. Mais en utilisant ces techniques dont nous développons actuellement en collaboration avec Santé Canada, un programme national pour des techniques de diagnostic rapide. Ça nous permet actuellement de faire un diagnostic à l'intérieur de 6 à 8 heures avec l'objectif de faire ça de manière rapide à l'intérieur de 2 heures. Donc, on pourra prendre une décision de santé publique et aussi des impacts industriels à très court terme.
Avec maintenant une meilleure image peut-être de ce que peut faire la médecine, la nanomédecine et les nanotechnologies dans le secteur médical et de la santé, on peut revenir sur la question de morale, si on veut. Quels sont les risques? Parce que là, on a vu que, oui, il y a des problèmes avec la question de la génomique, mais d'un autre côté, on est aussi en train de développer des outils qui vont faire baisser de manière très importante les coûts associés à différents diagnostics, mais accélérer aussi le processus. Encore une fois, on ne sera plus obligé de faire prendre une prise de sang, d'attendre 2-3 semaines pour que le médecin ait le rapport sur son bureau. Il va pouvoir l'avoir dans la demi-heure. Qu'est-ce que vous voyez maintenant quand on regarde tout ça? Quels sont vos défis à vous comme chercheur? Est-ce que vous vous sentez à l'aise ou mal à l'aise? Qu'est-ce que la société doit faire pour se préparer?
Je dirais que, comme chercheur, on a bien sûr une pensée et une poussée à développer ce genre de techniques, ce genre de sciences qui nous permet d'accélérer. Et le défi est à la fois scientifique et technologique. C'est ça qui nous pousse à investir nos temps et aussi à convaincre les bailleurs de fonds des divers niveaux du gouvernement à nous subventionner. Et c'est aussi une motivation personnelle et aux gens que je dirige au Conseil national à Boucherville de pouvoir contribuer à l'émergence des techniques de diagnostic rapide qui effectivement auront un impact à court terme et à moyen terme sur le système de santé en éliminant par exemple les fautes de diagnostic. On a parlé des diagnostics respiratoires. Bien sûr, il y a des procédures qui sont en cours et tous les protocoles pour l'administration des antibiotiques et tout ça qui ont un autre impact important à long terme. Mais j'aimerais revenir, par exemple, pour justifier notre détermination et ma pensée vis-à-vis de ces aspects sociétals et d'éthique, notamment sur la détection du cancer. Vous savez, autant au Québec que dans les maritimes, on a fait face à des erreurs humaines sur le diagnostic du cancer du sein.
Oui.
Parce qu'on s'est basé à l'époque sur la même vieille pathologie qui date de 100 ans. Bien sûr, avec d'autres types de microscopes, mais il reste que c'est un facteur de décision humaine basé sur une pathologie et méthode de pathologie qui sont vieilles des dizaines d'années ou d'un siècle. Donc, les technologies actuellement des diagnostics rapides, couplés avec le niveau de sensibilité que les nanotechnologies le permettent, nous permettront d'avoir en temps réel, à l'intérieur de quelques heures, une signature moléculaire qui peut être d'aide ou sinon même remplacée. Moi, je dirais ça, le développement des pathologies moléculaires. Et ça a un impact sur la vie de jour le jour, sur les gens qu'on connaît, qui sont souffrants. Et donc, ça éloigne initialement, comme scientifique, si vous voulez, les questions éthique. Mais par contre, si on pense à long terme, et je reviens à l'exemple du sein cancer, je pense qu'on doit développer, mais on doit en même temps investir dans la recherche sociale autour des nanotechnologies, autour de leur acceptation dans la société, parce qu'il faut absolument éviter autant, dans le cas des nanosciences, que de leur application dans les domaines de la santé humaine, à faire les mêmes erreurs qu'on a fait avec l'organisme modifié génétiquement. Parce que n'importe quelle sensibilité on aura, si l'acceptation sociale, s'il y a des risques que les gens n'accepteront pas de prendre, ces technologies-là ne feront pas leur chemin vers la clinique, vers l'application, dans l'investissement et notre énergie comme chercheur et comme technologue qu'on met dedans ne suffira pas pour pouvoir les faire accepter. Donc, je dirais qu'en parallèle avec un développement technologique qui s'est amorcé il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, et qui en voit les premiers fruits, il faut absolument investir dans le domaine des sciences sociales pour pouvoir préparer et mettre les barrières au bon endroit, au bon moment, pour que l'effet ne soit pas un effet rétroactif qui va empêcher que tous ces développements-là donnent des fruits sur la société.
Sur cette mise en garde quand même, qui est reflétée par des films déjà passés, mais qui nous ont un petit peu avertis, on parlait du Voyage fantastique au début, de Gattaca, qui est beaucoup plus récent et qui met aussi un petit peu la table sur ces problèmes-là. Je vous remercie beaucoup, Théodore Verrès, chercheur senior au Conseil national de recherche du Canada à Boucherville et également professeur adjoint à l'INRS Énergie Matériaux et à l'Université McGill. Merci pour cette entrevue.
Ça m'a fait très grand plaisir.
Cette émission s'inscrit dans une série sur les nanosciences, leur importance et leur impact possible dans le domaine de la haute technologie, mais aussi des produits de tous les jours et de la médecine. Les autres épisodes seront diffusés au cours de la saison et je vous invite à visiter le site Internet de La Grande Équation pour plus d'informations. Je remercie Daniel Fortin à la technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.